Voilà, bonjour messieurs, mesdames. J'ai pour mission de vous présenter un sujet un petit peu d'actualité, puisqu'il est effectivement où s'inscrit l'éducation thérapeutique dans les établissements de santé et que faut-il faire pour permettre de le développer. On n'a jamais autant parlé de l'éducation thérapeutique dans les établissements de santé et on n'a jamais été aussi près de la vraie discussion financière, c'est-à-dire comment le financer, comment le développer. Et quels moyens avons-nous de justifier et de pouvoir demander des moyens, ou en tout cas même, avant de les demander, de les justifier. Différents constats m'ont amené effectivement à poser cette problématique, aussi bien dans l'établissement où j'assure mes responsabilités de directeur, qu'au niveau d'une réflexion plus large et plus nationale. Alors effectivement, le contexte des établissements de santé, vous le connaissez comme moi, le projet d'établissement. Donc ce qui est fondamental, c'est déjà d'aller repérer si l'éducation thérapeutique est un axe inscrit comme étant un axe majeur dans les 5 ans, dans les projets d'établissement. Ça n'a l'air de rien, mais déjà un établissement qui dit nous travaillons et nous voulons développer l'éducation thérapeutique et que l'on ne retrouve pas comme axe majeur dans le projet médical, dans le projet de soins et dans l'amélioration continue de la qualité, il y a déjà un sujet. C'est-à-dire, comment va-t-on valoriser ce développement? Enfin, quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être creusé largement en termes d'éducation thérapeutique, c'est le contrat d'objectifs et de moyens. Y a-t-il dans le contrat d'objectifs et de moyens, y a-t-il un axe prévention, éducation thérapeutique? Et si oui, comment est-il développé? Quelque chose de très important sur lequel je crois que dans tous les sujets, et entre autres sur l'éducation thérapeutique, il ne faut pas rater le coche. Ça, c'est un message, il faut toujours être en anticipation. Très souvent, enfin je parle au niveau des soignants, on est encore dans une culture difficile à objectiver les soins et à objectiver, surtout lorsqu'on parle de dépenses et de recettes. En tout cas, moi, je suis au cœur de ce métier qui à la fois consiste à développer des projets d'organisation des soins tout en ayant la responsabilité de les situer dans un cadre financier validé et donc pérenne. Alors la nouvelle gouvernance a amené quand même quelque chose de fondamental, la contractualisation. Premier sujet, contractualise-t-on avec son établissement, le service, le pôle, l'établissement, l'ARH? Où se situe l'éducation thérapeutique dans ces niveaux de contractualisation? Et ça, c'est très important à regarder dans les établissements de santé dans lesquels vous travaillez. Le deuxième sujet, ce sont les projets de pôle. Je rappelle la nouvelle gouvernance, obligation de mise en place des pôles en janvier 2007, obligation de constituer les pôles, conseil de pôle, bureau de pôle, responsable de pôle médicaux et paramédicaux, et réalisation d'un projet de pôle qui lui-même va être le sujet support à la contractualisation. Donc, dans vos projets de pôle, y a-t-il un axe éducation thérapeutique? Comment est-il valorisé sur l'existant? Déjà, premier sujet. Comment est-on capable, de façon extrêmement précise, de dire voilà ce que nous faisons? Oui, on dit tous, on fait de l'éducation thérapeutique, mais une fois qu'on a dit ça, comment le précise-t-on de façon jusqu'à un chiffrage en recettes et en dépenses? Et c'est là qu'il y a un sujet sur les recettes. Voilà, projet de pôle d'activité. Donc moi, je suis actuellement nous sommes en train de valider et de lire les projets de pôle et je cherche, par exemple, dans les pôles cardiovasculaires, respiratoires, rhumato, etc. Comment ils ont finalement, quelle ligne ils ont mis, à la fois une ligne d'objectifs de soins, mais une ligne financière sur l'éducation thérapeutique. Enfin, le contrat de retour à l'équilibre financier, même s'il est difficile, même s'il est perçu de façon négative, quelles que soient les perceptions, la réalité nous rattrape toujours. Le contrat de retour à l'équilibre financier, c'est le sujet majeur de tous les établissements de santé, en particulier de tous les CHU et les CHR. Ça veut dire que pour amener un contrat de retour à l'équilibre, il y a deux sujets, il n'y en a pas 50. Il s'agit de travailler sur, c'est comme un budget à la maison, hein, sur les recettes et sur les dépenses. Donc, est-on capable de montrer l'exhaustivité de nos recettes? C'est-à-dire, on fait des tas de choses qu'on ne valorise pas. Ça, c'est la caractéristique du public par rapport au privé. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à valoriser son activité réalisée. Et ensuite, comment est-on garant de la maîtrise de nos dépenses? C'est-à-dire, a-t-on une ligne budgétaire? A-t-on un cadre budgétaire dans l'année? Est-on capable de valoriser que l'on a réalisé nos objectifs? Ça veut dire qu'on ne peut travailler que par objectif. des objectifs quantifiés et être capable de montrer qu'on a réalisé ces objectifs et que l'on les a fait, ou que, au contraire, on a développé et donc que l'on a un équilibre financier positif qui nous permettra peut-être de rajouter des moyens en tant soignant, en tant en organisation, quels que soient les moyens demandés. Et ça, je reviens à la case départ qui s'appelle contrat de pôle. Donc ça, c'est un fondamental et il ne faut pas le rater parce que c'est maintenant. Les contrats de pôle, globalement, les contrats de pôle dans les CHU. Aujourd'hui, tous les CHU, bon, sauf les CHU qui avaient une antériorité telle que Toulouse, Nantes sur les contrats de pôle, autrement, les établissements majoritairement sont dans la signature des contrats de pôle. Alors, ce que moi j'ai pu essayer d'identifier depuis quelques années où je suis sur ce poste, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut développer l'éducation thérapeutique. Alors là, c'est l'unanimité. Vous allez en n'importe quel service, ce serait étonnant que quelqu'un vous dise on est contre. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau local, alors que j'ai essayé de reprendre un petit peu une chronologie pour passer du local à la RH, à une volonté régionale, une volonté nationale, on peut dire que tout le monde est d'accord pour dire il faut développer. Cependant, en 2002 et 2004, en regardant des rapports ou en regardant nous-mêmes notre propre auto-évaluation, beaucoup se trompaient dans ce qu'était l'éducation thérapeutique. Lorsqu'on fait des recensements dans les établissements de santé, certains disent on fait de l'éducation thérapeutique et sont plus proches de l'information en termes de structure, ou en tout cas ne sont pas structurés, coordonnés. Ce que l'on peut, l'analyse que moi je porte, elle m'est personnelle, on peut dire que les projets d'éducation thérapeutique sont partis des services. Ils sont partis des services, ils doivent devenir un projet de pôle et ils doivent devenir une priorité d'établissement. Tout le monde les annonce comme tels. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un établissement de santé, je pense qu'on peut passer en éducation thérapeutique, enfin, lorsque vous questionnez des infirmières, des cadres, est-ce que vous faites de l'éducation ? Oui. Et lorsque vous demandez, que vous commencez à dérouler les programmes, les séances collectives, individuelles, etc., et que vous déroulez, vous vous rendez compte qu'il y a des niveaux extrêmement hétérogènes. Et ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse du sujet. C'est un petit peu lorsqu'on a travaillé il y a 10 ans sur la douleur, on avait le même processus, c'est-à-dire le meilleur et le pire au sein même d'un établissement. On croit globalement, quand on traite un sujet, qu'on peut se dire un établissement est fort dans tel domaine. La réalité nous montre que c'est souvent faux. C'est souvent très service dépendant. Aujourd'hui, la notion de service ne devrait plus exister, ça devrait être au minimum pôle dépendant. C'est-à-dire que ça devrait être une vraie identité, une vraie culture de pôle et une vraie structure. C'est-à-dire une structure de coordination, de programme, etc., que je vous reprendrai un petit peu. Ça me semble essentiel. Alors effectivement, lorsqu'on dit qu'on fait de l'éducation thérapeutique, on doit être capable d'identifier immédiatement tous les axes d'éducation thérapeutique, de décrire les activités qui sont réalisées et de décrire surtout aussi les organisations. Or, dans chaque service, vous y allez, vous passez une heure et demie avec un service et il vous raconte souvent comment c'est organisé. Je dis raconte parce que ça montre parfois le niveau de manque de structure affirmée, écrite, validée, signée dans le cadre du pôle. Parce que la signature d'un contrat, ça veut dire je m'engage et vous vous engagez. Je m'engage à réaliser une activité, vous vous engagez à me donner les moyens pour la réaliser. On contractualise, on a atteint, on n'a pas atteint. Ça c'est quand même actuellement sur l'éducation thérapeutique et les établissements de santé, c'est quand même pas un axe dominant. On peut dire que dans l'enquête du PEF, 78% des établissements de santé disaient qu'il y avait un axe d'éducation thérapeutique dans leur projet d'établissement. 75% considèrent l'éducation thérapeutique comme une priorité et 77% ont des actions de formation et d'éducation. Et c'est là qu'il y a souvent une confusion. C'est-à-dire qu'on a formé des agents et on pense que c'est ça la structure. On fait de l'éducation thérapeutique, donc faut former les infirmières, les médecins, etc. Et comme ils sont formés, on a une structure d'éducation thérapeutique. Non, la formation n'est qu'un moyen pour aller à un objectif, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen pour aller quelque part. Et là, il y a confusion des genres, surtout lorsqu'on arrive à des niveaux, niveau 2 ou niveau 3, et on se dit, maintenant, moi j'ai quelqu'un de formé niveau 3, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Moi, je retourne le truc, qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, pour vous ? C'est là qu'il y a des fois, le sujet n'est pas au bon endroit. Enfin, l'enquête ARH Lorraine dans le cadre de la mise à plat des MIG, c'est un petit peu l'enquête nationale. C'était effectivement pour voir au niveau national comment on va pouvoir développer et surtout le problème de la tarification sur l'éducation. C'est déjà de savoir, pour savoir où on veut aller, il faudrait déjà savoir au niveau national de où on part. Alors les enquêtes Lorraine, en tout cas la RH Lorraine, d'autres ARH ont également diligenté ces enquêtes, c'est de mettre à plat toutes les actions, tous les financements de MIG, de mission d'intérêt général. Mais là-dedans, il y a les SAMU, il y a la douleur, il y a quand même pas que l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique reste un acte mineur. La problématique des axes, c'est lorsqu'on est très expert dans un domaine. Par exemple, aujourd'hui, on est dans cette salle avec, on parle d'éducation thérapeutique. Peut-être que dans une autre salle à côté, il parle de la douleur. Et tout le monde défend son combat. Mais comment ce thème s'inscrit dans une vue d'ensemble? Ça, c'est fondamental. Or, plus on est expert, plus on pense qu'on est le plus pointu, etc. Mais les MIG, c'est 15 sujets. Donc la RH, elle va avoir une enveloppe financière et elle va se dire comment je distribue sur un thème de santé publique des grandes actions. Et ensuite, j'ai pas intérêt à les distribuer, c'est-à-dire que je vais pas aller donner un petit morceau à tout le monde. Sur la région Lorraine, si je donne un petit morceau pour l'éducation à tout le monde, personne n'a rien, quoi, finalement. Donc moi, je serais dans une RH, je me dirais, je vais donner une grosse enveloppe à quelqu'un qui va coordonner la structure et qui va être garant, finalement, qui va être mon interlocuteur au lieu qu'il y en ait 25, pour se dire, je suis garant de mettre en place une structure qui va coordonner et qui va nous donner finalement un objectif de réussite. On est sur du résultat attendu. Une ARH, elle donne de l'argent pour un résultat attendu. Or, si cet argent est complètement distillé sur tous les établissements de santé, comment est-on garant du résultat attendu? Alors, c'est un peu dur, hein, mes propos à dire ou à entendre parfois. Hein. Mais en tout cas, c'est la réalité, hein, d'aujourd'hui. Alors, les freins, j'ai essayé pour cette présentation de me dire finalement, c'est quoi les freins au développement de l'éducation thérapeutique. J'en ai identifié trois qui, à mon avis, sont les freins majeurs pour que ça se développe ou pour que ça ne se développe pas, justement, les limites. C'est le financement, c'est la capacité à identifier, à valoriser et à évaluer ses activités, et c'est la coordination des activités. Je vais vous donner l'exemple, je vais revenir sur la RH Lorraine. La RH Lorraine a donc fait un recensement de toutes les actions éducation thérapeutique en Lorraine, dans les PRSP également, de tous les plans de santé publique, et nous avons sur toute la région Lorraine tous les établissements de santé quasiment zéro. Le seul sujet étant absence de structuration. C'est-à-dire, nous avons besoin d'avoir une lisibilité sur la région sur quelle est la structuration des établissements de santé, pour pouvoir donner les moyens. Alors, chaque établissement a fait un travail, si je prends l'éducation thérapeutique, mais je parle des plans de santé, il n'y avait pas que l'éducation thérapeutique. Si on prend dans notre établissement, on avait bien sûr la diabéto, on avait bien sûr l'insuffisance respiratoire, etc., etc. Le deuxième établissement avait la même chose, le CHU avait la même chose, et tous les petits établissements de la région avaient la même chose. Donc, d'une vue un peu avec une prise de recul, c'est quand même pas simple. À être garant de la structuration. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai souhaité présenter cet exposé, c'est-à-dire à partir des limites et des freins et en reprenant ces trois axes. Alors, quand on prend le financement et les missions d'intérêt général, alors, elles sont là, c'est pour ça qu'on parle des MIGAC parfois, parce que dans le HAC, il y a la notion d'aide à la contractualisation. L'éducation peut se situer d'ailleurs dans les MIG et dans les HAC, c'est-à-dire qu'on a contractualisé. Là, j'ai pris le versant MIG. Donc, premièrement, définissons le périmètre, parce que tout le monde dit l'éducation thérapeutique est financée par les MIG. Oui, d'accord, mais à certaines conditions. C'est pas oui, elle est financée par l'éducation thérapeutique, c'est oui, elle est financée dans un périmètre, dans une allocation, dans des missions, etc. Donc, le périmètre, c'est les actions de prévention et d'éducation patients non hospitalisés. Premier vrai sujet majeur. Les MIG ne financent pas l'éducation thérapeutique qui sont pour les patients hospitalisés. Même les hôpitaux de jour. Confusion. Enfin, moi, je l'ai vu ou je l'ai entendu dans différents établissements de santé. Les MIG financent les ambulatoires. Non. L'hôpital de jour est une organisation d'hospitalisation ambulatoire, mais c'est de l'hospitalisation. Donc, c'est dans tout ce qui est tarification T2A. Donc, premier sujet. Ça veut dire que sont exclus des MIG l'hospitalisation complète, l'hospitalisation de semaine, l'hospitalisation de jour. Je parle en financement, hein, je ne parle pas en prise en charge. Donc ça veut dire que beaucoup de structures d'éducation thérapeutique ont tout basé sur une structure, effectivement avec des programmes d'accompagnement à quelques jours, en particulier dans le domaine de la diabéto, et qui sont des patients en hospitalisation de semaine. Eh bien écoutez, ça fait partie du forfait. Voilà, donc il n'y a pas à demander, et enfin on ne peut pas espérer de moyens à ce jour, puisque là on va partir quand même dans une organisation, on peut espérer dans le projet de territoire et de santé de Madame Bachelot, une évolution certaine vers la question de l'éducation. Enfin, il prend des actions de forme variée. On peut dire que dans les MIGAC, on peut valoriser des consultations pluridisciplinaires, des séances individuelles, collectives, des réunions d'information, des conseils téléphoniques. Ça rentre dans le, si vous voulez, dans les MIG, vous avez un règlement qui vous dit quelles sont les missions. Voilà, elles sont décrites. Ce sont les missions fournies par l'ARH, les ARH. Enfin, des pathologies chroniques. L'allocation de la MIG, les crédits n'ont pas vocation à couvrir systématiquement l'ensemble des charges, c'est-à-dire les charges indirectes ou même les charges logistiques ou même des postes. On peut très bien avoir un pourcentage de postes, une somme financière, parce que l'ARH ne parle pas en postes mais en masse financière, et il nous appartient peut-être dans l'établissement de se donner les moyens, parce que derrière, c'est un vrai sujet de santé publique qui va permettre aussi de fédérer et d'amener de répondre à une offre de soins et un besoin de santé par rapport à une pathologie, par exemple. Donc ça peut être aussi une décision, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de contractualisation avec l'établissement, de se dire, voilà, il y a des MIG, mais il y a aussi l'établissement qui va valoriser à hauteur d'eux, à condition d'eux. Enfin, pour bénéficier des MIG, il faut respecter le cahier des charges de l'HAS, il faut organiser un programme structuré d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire tous les services qui disent « on fait de l'éducation thérapeutique ». Si demain on fait un audit, on rentre dans les services, on leur dit « éléments de preuve, comme pour l'accréditation, veuillez me remettre votre programme d'éducation thérapeutique ». Organiser les relations avec les médecins traitants, et ça c'est très important, c'est le suivi post-éducation thérapeutique. On sent bien quand même qu'il y a un vrai sujet, l'éducation thérapeutique, où doit-elle être, à l'hôpital, en ville, en réseau, vous voyez bien, vous connaissez aussi bien que moi, voire mieux, cette problématique. Enfin, les limites du financement des MIG, il faut se dire quand même qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'état des lieux sur les MIG, elles ont rarement été augmentées dans le champ de l'éducation thérapeutique. Ou alors, le problème, c'est que les MIG rentrent, tout ça rentre dans, c'est une seule enveloppe qui rentre dans l'ONDAM. Hein. Donc, vaste communicant. Hein. On augmente les l'ONDAM, on va baisser la T2A. Donc, il n'y a pas, à un moment donné, il y a une forme de leurre. Hein. Il faut être très prudent d'ailleurs, hein, à trop vouloir valoriser les MIG. Alors, dans les contrats d'objectifs et de moyens, les éléments de la méthode des négociations du contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement, c'est assez simple. Et si vous voulez, les choses sont très précises. On n'a pas tellement l'occasion de s'égarer, puisque les choses nous sont dites. Elles nous sont dites de la manière suivante. Pour faire une méthode de négociation dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, donc le contrat d'objectifs et de moyens se négocie entre l'ARH, les futurs ARS, aujourd'hui en tout cas les ARH, et les établissements de santé. Donc il faut que ce soit des éléments qui rentrent dans les matières de la qualité des soins, que ce soit des champs d'activité transversales, qui doivent se référer bien sûr aux plans nationaux de santé publique et aux plans de qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. Il faut une cohérence avec les plans régionaux de santé publique, et il faut une cohérence avec les schémas régionaux d'éducation pour la santé. Voilà, un projet qui se négocie en CEPOM doit répondre à ces critères-là. Alors, le financement, la dotation régionale pour le développement des réseaux et les appels à projets, moi, j'y suis. On a très vite une autosatisfaction quand on a une manne financière qui tombe dans le cadre des appels à projets. Alors, les services sont très contents. Les directions, un peu prudents, on va dire, parce qu'ils ne sont pas pérennes. Moi, j'ai un exemple très précis. Dans le cadre de l'éducation des pathologies cardiologiques, nous avons obtenu des moyens il y a un an ou 18 mois à peu près à équivalent d'un poste infirmier que nous avons mis sur deux sites de cardiologie. Aujourd'hui, ces moyens ne sont pas pérennes. Aujourd'hui, le service s'est mobilisé. Il a mis un programme en route, il a mis des demi-journées, il a formé des infirmières, donc des infirmières sont devenues pointues dans le domaine, ce qui est toujours bien et à la fois dangereux. Et bilan des courses, aujourd'hui, le réseau dit, bah, écoutez, nous avons fait notre part, veillez continuer. Mais sauf que de l'autre côté, on est tous étranglés par les contrats de retour à l'équilibre. Donc comment va-t-on financer un poste infirmier en volume financier d'une ARH, c'est 40 000 euros. Bon, quand vous savez que les établissements sont en train de brasser des millions de déséquilibres financiers, alors évidemment, vu du service, c'est très dur dans la relation service et direction, en particulier quand on est une direction des soins et qu'on est là pour défendre les soins ou défendre, en tout cas c'est la perception des soignants. D'un autre côté, on se dit, nous on doit travailler sur l'efficience, la performance et donner les moyens pour une activité qui est développée. Peu que le service n'ait pas encore son programme écrit, précis, enfin vous voyez qu'il manque toute la structure, Ben voilà, donc qu'est-ce que c'est pour ça que je l'ai mis, risque pour moi majeur de frustration. Des équipes. Des équipes investissent, ce que je vous ai dit, une absence de financement et des projets mis en œuvre. Et quand on dit, ben voilà, vous avez eu les moyens pendant 18 mois, maintenant on ne vous donne plus les moyens, que fait-on? Donc c'est un petit peu le sujet qu'on a rencontré, pas que nous, hein, beaucoup d'établissements qui ont travaillé dans ces logiques-là. Alors enfin, je vous ai abordé la question du financement. Je rappelle que donc dans l'hospitalisation, les projets d'éducation thérapeutique qui sont pour des patients qui sont en hospitalisation complète, en hospitalisation de semaine et en hôpital de jour sont dans le groupe, sont dans le financement T2A. Ils sont intégrés, c'est ce qu'on nous répond, ils sont intégrés dans la valorisation du GHS en lien avec les pathologies, en particulier les pathologies chroniques. Enfin, le deuxième axe, qui, je pense, est celui sur lequel beaucoup d'établissements doivent travailler, c'est la capacité à identifier, à valoriser et à évaluer son activité d'éducation thérapeutique. Mais pas avec des mots, avec des chiffres. Les ARS, elles auront pour mission d'évaluer ces programmes d'éducation thérapeutique qui seront mis en œuvre en ambulatoire dans les établissements de santé. Il s'agira de faire une évaluation qualitative et quantitative. Pas que tant quantitative, mais la qualitative, globalement, je trouve que les services savent bien faire. On le voit dans les auto-évaluations de certification. Globalement, le qualitatif, c'est un peu le cœur du sujet pour le service. Donc globalement, il arrive bien à le faire. Une lisibilité indispensable de l'activité. C'est-à-dire, quels sont les objectifs que le service s'est donné? C'est-à-dire qu'on devrait, on doit, le service qui réalise... Moi, je crois que... Je vais un peu vers la conclusion. Je ne crois plus au projet... Je ne crois pas, en tout cas, au développement de l'éducation thérapeutique s'il reste dans la limite du service. Ils devront au minimum être au pôle, et je pense même au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des objectifs de définis pour l'année, des objectifs organisationnels. Comment sont les séquences? Ça, c'est le plus facile et c'est le plus près du cœur de métier, en tout cas d'une partie de vous. Mais également des objectifs qualité, c'est-à-dire combien, effectivement, de patients ne vont pas être réhospitalisés, enfin, du qualitatif. Des objectifs d'activité, combien de séquences sommes-nous en mesure de faire avec les moyens que nous avons? Combien de séquences collectives? Combien de séquences individuelles? Combien allons-nous en faire? Nous allons fixer des objectifs à l'année. Par exemple, on développe où il y a un nouveau médecin qui arrive dans le service. On peut réévaluer les objectifs à la hausse ou à la baisse, ou un départ de médecin, ça peut arriver, qui nous bloque un système. Il n'y a plus cette pathologie, par exemple, dans un établissement. Ou, par exemple, on le voit sur tout ce qui est rhumato. Aujourd'hui, la rhumato est peu valorisante, et pas valorisée, peut valoriser en tout cas en éducation thérapeutique. On peut avoir des rhumatos qui veuillent développer l'éducation thérapeutique, c'est intéressant. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas encore dans le cœur des sujets. Enfin, développer, avoir aussi des objectifs financiers. Ça veut dire que ça se traduit, si vous dites tant de séquences, une séquence d'éducation collective dure tant de temps, une séquence d'éducation thérapeutique dure tant de temps, et que vous faites des règles, c'est comme ça que les ARH, on l'a vu sur les MIG, hein, retransforment ça en moyens. C'est-à-dire combien d'infirmières, une infirmière pour ça, pour tant de séquences, combien d'heures, on fait un nombre d'heures à l'année, un nombre d'heures égale un nombre de morceaux de poste et un nombre financier. Si on a un potentiel à peu près de 1500 heures, donc ça veut dire à peu près, parce que selon les établissements, on n'est pas tous sur le même chiffre, 1500 heures, ben c'est un poste infirmier à l'année, c'est 40 000 euros. Voilà. Donc après, il faut prouver qu'on a utilisé 1500 heures. Alors, les moyens utilisés, c'est-à-dire les objectifs, ce que je vous disais, la lisibilité, les moyens, les indicateurs de suivi, les outils de pilotage, là aussi, autant de services que d'outils de pilotage, des tableaux de bord dans les établissements de santé qui ne sont pas standardisés pour tous les sujets d'éducation thérapeutique. Chaque service va avoir produit ses tableaux de bord. Certains vont en faire de haut niveau, certains ne vont pas en faire. Et surtout, ils ne vont pas forcément mettre les mêmes indicateurs dedans. Or, si vous voulez, le problème de l'éducation thérapeutique, c'est que le service regarde par le prisme du service. L'établissement regarde par le prisme d'établissement et l'ARH regarde par le prisme de la région. Donc, il faut toujours se demander, quand on est dans un endroit, qui c'est qui va payer? Et qui c'est qui va donner les moyens? Donc, celui qui va donner les moyens, qu'est-ce qu'il va regarder? Et si on est malin, on lui donne ce qu'il attend. un rapport d'activité annuel, c'est-à-dire que chaque service devrait être en capacité de faire un rapport avant qu'on le lui demande et de le donner à la direction tous les ans sur les objectifs qu'il s'était fixés, qu'est-ce qu'il a réalisé, et s'il est en écart, la capacité à justifier cet écart pour des raisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, départ de médecin, arrivée de médecin, absentéisme infirmier, alors que l'infirmière était peut-être la personne, ou le diététicien, la personne qui tenait le projet. Le delta, les deltas en soi ne sont pas fondamentaux. Ce qui est fondamental, c'est d'expliquer un delta. Enfin, la mise en place de tableaux de bord de suivi. Alors, j'ai essayé de formater un petit peu à partir des fiches MIG. Qu'est-ce qui finalement a été demandé systématiquement dans les fiches MIG des ARH? On retrouve quelques indicateurs sur l'activité qui sont le nombre de séjours hospitaliers avant ayant pour objet premier l'éducation du patient. On retrouve le nombre de consultations ou de séances médicales individuelles collectives, le nombre de consultations de séances infirmières individuelles collectives, le nombre de suivis téléphoniques, la file active de patients et le nombre de patients adressés par les médecins libéraux. Ça, ce sont des, j'ai ressorti les indicateurs qui figurent toujours dans les fiches MIG, donc qui sont les incontournables sur lesquels vous devez être capable de répondre. Ensuite, la formation, c'est-à-dire le nombre d'agents formés, mais aussi les niveaux de formation. C'est pas parce qu'on va deux jours dans un congrès qu'on est formé à l'éducation. Les moyens et surtout la stratégie de formation. Est-ce qu'on a une formation subie ou est-ce qu'on a une formation organisée? C'est-à-dire qu'un établissement de santé se dit, par exemple, moi il me faut à la fin tant de professionnels de telle catégorie et je veux faire un exemple de pluridisciplinarité. Donc je veux des diététiciens, des infirmières et je veux qu'ils soient pluridisciplinaires dans les métiers mais aussi dans les pathologies. Et donc, j'organise un plan de formation sur 5 ans pour déterminer ce que je veux. Et non pas chaque année, quand quelqu'un me demande si elle veut faire une formation sur l'éducation thérapeutique, je réponds oui ou je réponds non. C'est dans l'autre sens. L'évaluation qualitative, évaluation de la qualité de l'éducation thérapeutique en lien avec les recommandations de l'HAS. Enfin, ce qui sera très intéressant, ça va être de regarder combien on va avoir de PP au niveau national sur l'éducation thérapeutique. Pour l'instant, en prenant plusieurs gros CHU, je n'en ai pas trouvé. Alors enfin, la structure de coordination des activités d'éducation thérapeutique, c'est le troisième axe que je vous ai dit qui est nécessaire au développement. C'est permettre d'identifier les acteurs médicaux et paramédicaux garants d'une cohérence d'ensemble des projets d'établissement. Et moi, l'ensemble de la cohérence, pour moi, elle se situe au niveau, la taille, c'est l'établissement. Elle ne se substitue pas aux différents projets impliqués, mais par contre, elle coordonne le développement de l'offre éducative sur l'établissement, c'est-à-dire qu'elle est garante de la qualité des programmes, des actions et des outils pédagogiques. L'objectif, c'est de professionnaliser les pratiques en coordonnant les actions de formation dans le plan de formation continue, et c'est ce que je vous disais, en structurant et en l'organisant. Elle apporte des conseils méthodologiques et l'accompagnement des processus d'évaluation, c'est-à-dire de tisser une structure de coordination de personnes ressources. Elle favorise les relations entre les services et le partenariat ville-hôpital. Elle implique les représentants des usagers et des associations dans cette réflexion. Elle crée un centre de documentation et elle impulse des actions de recherche. Alors, les éléments nécessaires au développement de l'éducation thérapeutique, donc positionnement institutionnel, obligatoirement on doit trouver l'éducation thérapeutique dans le projet d'établissement, dans le CEPOM et dans les contrats de pôle. Le financement, un financement qui doit être pérenne, mais dans le cadre d'une contractualisation, avec une valorisation de l'acte éducatif dans le système de soins, une tarification spécifique à la T2A. On va partir probablement, si vous relisez le projet de loi et le projet de santé territoire patient, vers des forfaits, c'est ce qu'il faudrait, des forfaits d'éducation, pour qu'on puisse rentrer dans quelque chose d'un peu plus global. Il faut une stratégie de formation, des niveaux différents de formation, avec des formations de professionnels relais dans les pôles, c'est-à-dire créer des arborescences de l'établissement vers le pôle, vers le service. Une évaluation des programmes avec des indicateurs de suivi, un rapport d'activité, des évaluations de pratiques professionnelles. Ça, c'est un point d'ancrage très important pour valoriser l'activité. Enfin, les structures de coordination, mettre en réseau les pôles avec des échanges de pratiques et des outils, développer les programmes structurés répondant à toutes les qualités, coordonner les actions éducatives, professionnaliser les pratiques, accompagner l'évaluation et les EPP, mise en place d'un pôle. Moi, je pense que ça, c'est une vraie ressource. Nous construisons un nouvel hôpital et nous allons créer un pôle addicto-prévention éducation thérapeutique. Voilà, en conclusion, je dirais que l'éducation thérapeutique se situe, à mon avis, là, c'est-à-dire que les projets d'éducation thérapeutique du patient, elles ont débuté par des logiques et des dynamiques de service. Aujourd'hui, elles sont prioritaires, on l'a vu, dans les projets d'établissement. Demain, elles se développeront par une politique nationale. Merci.